Chapitre 12. La fascination. Pour ne point comprendre ce que la situation avait de terrible, il n'y avait là que Dona Cruz et ses dames. Toute la partie mâle de l'assemblée, financiers et gentilshommes, avait le frisson dans les veines. Cocardas et Passepoil tenaient leurs yeux fixés sur le bossu comme deux chiens tombés en arrêt. En présence de ces femmes étonnées, inquiètes, curieuses, en présence de ces hommes énervés par le dégoût, mais qui n'avaient point ce qu'il fallait de force pour rompre leurs chaînes, Aurore était calme. Aurore avait cette douce et radieuse beauté, cette tristesse profonde, mais résignée, de la sainte qui subit son épreuve suprême sur cette terre de deuil et qui déjà regarde le ciel. La main de Gonzague s'était tendue vers les fleurs, mais la main de Gonzague retomba. Cette situation le prenait à l'improviste. Il s'était attendu à une lutte quelconque, à la suite de laquelle ces fleurs, données ostensiblement à la jeune fille, eussent scellé la complicité de ses adhérents. Mais en face de cette belle et douce créature, la perversité de Gonzague s'étonna. Ce qui restait de cœur au fond de sa poitrine se souleva. Le comte Canozza était un homme. Le bossu fixait sur lui son regard étincelant. 3 heures de nuit sonnèrent à la pendule. Au milieu du profond silence, une voix s'éleva derrière Gonzague. Il y avait là un coquin dont le cœur desséché ne pouvait plus battre. Monsieur de Pérols dit à son maître : Le tribunal de famille se rassemble demain. Gonzague détourna la tête et murmura : Fais ce que tu voudras. Pérols prit aussitôt le bouquet de fleurs dont Gonzague lui-même avait révélé la destination. Dona Cruz, saisie d'une vague crainte, dit à l'oreille d'Aurore. Que me parlais-tu de ces fleurs ? Mademoiselle, prononçait en ce moment Pérols, vous êtes libre. Toutes ces dames ont un bouquet. Permettez que je vous offre. Il fit cela gauchement. Son visage à cette heure suait l'infamie. Aurore, cependant, avança la main pour prendre les fleurs. Cap et débiou, fit Cocardas qui s'essuya le front. Il y a là quelque diablerie. Dona Cruz, qui regardait Pérols avidement, s'élança d'instinct, mais une autre main l'avait prévenu. Pérols, repoussé durement, recula jusqu'à la cloison. Le bouquet s'échappa de ses mains, et le bossu le foula aux pieds froidement. Toutes les poitrines furent déchargées d'un fardeau. « Qu'est-ce à dire ? » s'écria Pérols, qui mit l'épée à la main. Gonzague regarda le bossu avec défiance. « Pas de fleurs ! » dit celui-ci. Moi seul ai désormais le droit de faire de ces cadeaux à ma fiancée. Que diable ! Voilà tous consternés comme des gens qui ont vu tomber la foudre. Rien n'est tombé qu'un bouquet de fleurs fanées. J'ai laissé aller les choses pour avoir tout le mérite de la victoire. Rengainez, l'ami, et vite ! Il s'adressait à Pérols. Monseigneur, reprit-il, ordonnez à ce chevalier de la triste figure de ne point troubler nos plaisirs. Bonté du ciel ! Je vous admire. Vous jetez comme cela le manche après la cognée. Vous rompez les négociations. Permettez-moi de ne pas renoncer si vite. Il a raison, il a raison, s'écria-t-on de toutes parts. Chacun se raccrochait à ce moyen de sortir du noir. La gaieté n'avait pu prendre dans le salon de Gonzague cette nuit. Il va sans dire que Gonzague lui-même n'espérait rien de la tentative du bossu. Cela lui donnait seulement quelques minutes pour réfléchir. C'était précieux.
« J'ai raison, pardieu, je le sais bien, » poursuivit Ésope II. « Que vous avais-je promis ? Une leçon d'escrime amoureuse. Et vous agissez sans moi. Et vous ne me laissez même pas dire un mot. Cette jeune fille me plaît, je la veux, je l'aurai. »
« À la bonne heure, » fit Navaille. « Voilà qui est parlé. »« Voyons, » dit le gros petit traitant en arrondissant avec soin sa phrase. « Voyons si tu es aussi fort au tournoi d'amour qu'aux luttes bachiques. » « Nous serons juges, » ajouta Nocé. « Entame la bataille. » Le bossu regarda Aurore, puis le cercle qui les entourait. Aurore, épuisée par le suprême effort qu'elle venait de faire, s'affaissait entre les bras de Dona Cruz. Cocardas roula vers elle un fauteuil. Aurore s'y laissa tomber. « Les apparences ne sont pas pour ce pauvre Ésope II, » murmura Nocé. Comme Gonzague ne riait pas, on restait sérieux. Les femmes ne s'occupaient que d'Aurore, excepté Nivelle qui pensait.
J'ai idée que ce petit homme est un Crésus.
« Monseigneur, dit le bossu, permettez-moi de vous adresser une requête. Vous êtes trop haut placé, sûrement, pour avoir voulu vous jouer de moi. Si l'on dit à un homme, courez, il ne faut pas commencer par lui lier les deux jambes. La première condition de succès, c'est la solitude. Où vite-vous une femme s'attendrir quand elle se voit entourée de regards curieux? Soyez juste, c'est là l'impossible. »
« Il a raison, fit encore le cœur des convives.
« Tout ce monde l'effraie, reprit Ésope II. Moi-même, je perds une partie de mes moyens. Car en amour, le tendre, le passionné, l'entraînant est toujours près du ridicule. Comment trouver de ces accents qui enivrent les faibles femmes en présence d'un auditoire moqueur ?»
Il était vraiment drôle, ce petit homme, prononçant son discours d'un air avantageux et fat, le poing sur la hanche et la main au jabot. Sans le sinistre vent qui soufflait cette nuit dans la petite maison de Gonzague, on aurait bien ri. On rit un peu. Navaille dit à Gonzague. « Accordez-lui sa requête, monseigneur. »«
Que demande-t-il ? »
fit Gonzague, toujours distrait et soucieux.
« Qu'on nous laisse seuls, ma fiancée et moi, » répondit le bossu. « Je ne demande que 5 minutes pour faire taire les répugnances de cette charmante enfant. »«
5 minutes ? » se récria-t-on. « Comme il y va ! » On ne peut pas lui refuser cela, monseigneur. » Gonzague gardait le silence. Le bossu s'approcha de lui tout à coup et lui dit à l'oreille.
« Monseigneur, on vous observe. Vous puniriez de mort celui qui vous trahirait comme vous vous trahissez vous-même. »«
Merci, l'ami, » répondit le prince, qui changea de visage. « La vie est bon. Nous aurons décidément un gros compte à régler ensemble. Et je crois que tu seras grand seigneur avant de mourir. » « Messieurs, reprit-il, je songeais à vous. Nous avons gagné cette nuit une terrible partie. Demain, suivant toute apparence, nous serons au bout de nos peines. Mais il ne faut pas échouer en entrant dans le port. Pardonnez-moi ma distraction et suivez-moi. » Il s'était fait un visage riant. Toutes les physionomies s'éclairèrent. « N'allons pas trop loin, » dirent ces dames. « Il faut jouir du coup d'œil. » « Dans la galerie, » opina Nocé. Nous laisserons la porte entrebâillée. En besogne, Jonas, tu as le champ libre. Surpasse-toi, bossu. Nous te donnons 10 minutes au lieu de 5. Montre à la main.
Messieurs, dit Auriol, les paris sont ouverts.
On jouait sur tout et à propos de tout. Le cours des gageurs fut coté à 1 contre 100 pour Ésope II, dit Jonas. En passant auprès de Cocardas et de Passepoil, Gonzague leur dit. Pour une bonne somme. « Retourneriez-vous bien en Espagne ?»«
Nous ferions tout pour obéir à monseigneur, » répliquèrent nos deux braves.
« Ne vous éloignez donc pas, » fit le prince en se mêlant à la foule de ses affidés.
Cocardas et Passepoil n'avaient garde. Quand tout le monde eut quitté le salon, le bossu se tourna vers la porte de la galerie, derrière laquelle on voyait une triple rangée de têtes curieuses.
« Bien, » fit-il d'un air guilleret, « très bien. » Comme cela, vous ne me gênez pas du tout. Ne pariez pas trop contre moi, et consultez vos montres. J'oubliais une chose,
s'interrompit-il en traversant le salon, pour se rapprocher de la galerie.
Où est monseigneur ?
Ici, répondit Gonzague.
Qui est-il ?
Avez-vous un notaire tout près ?
Demanda le bossu avec un magnifique sérieux.
Pour le coup, personne n'y put tenir. Il y eut un franc éclat de gaieté dans la galerie.
Rira bien qui rira le dernier, murmura Ésope II.
Gonzague répliqua, non sans un mouvement d'impatience.
« Fais vite, l'ami, et ne t'inquiète point. Il y a un notaire royal dans ma chambre. »
Le bossu salua et revint vers les deux femmes groupées. Dona Cruz le regardait venir avec une sorte d'effroi. Aurore avait toujours les yeux baissés. Le bossu vint se mettre à genoux devant le fauteuil d'Aurore. Gonzague, au lieu de regarder ce spectacle qui avait tant de succès auprès de ses affidés, se promenait à l'écart au bras de Pérole. Ils allèrent s'accouder tout au bout de la galerie.
« D'Espagne, disait Pérole, on peut revenir. »«
On meurt en Espagne comme à Paris, murmura Gonzague. »
Il reprit après un court silence.
« Ici, l'occasion est manquée. Ces femmes devineraient. Dona Cruz parlerait. »
Chaverny, commença M. de Pérole.
« Celui-là sera muet, » interrompit Gonzague.
Ils échangèrent un regard dans l'ombre
et Pérol ne demanda point d'autres explications.
« Il faut, poursuivit Gonzague, qu'au sortir d'ici elle soit libre, absolument libre, jusqu'au détour de la rue. »
Pérol se pencha tout à coup en avant et prêta l'oreille.
« C'est le guet qui passe, » dit Gonzague.
Un bruit d'armes se faisait au dehors, mais ce bruit s'étouffa sous le grand murmure qui se leva tout à coup dans la galerie.
« C'est étonnant, » s'écriait-on, « c'est prodigieux. Avons-nous la berlue ? Que diable lui dit-il ?
Parbleu, » fit Nivelle, « ce n'est pas difficile à deviner. Il lui fait le compte des actions qu'il a. »
« Mais voyez donc, » dit Navaille, « qui a parié sans contre un ?»«
Personne, » répondit Auriol, « je ne gagerai seulement pas à 50. Fais-tu 25 ?»«
Pas s'il vous plaît. Voyez donc, voyez donc !»
Le bossu était toujours à genoux auprès du fauteuil d'Aurore. Dona Cruz voulut se mettre entre deux. Le bossu l'écarta en disant « Laissez !» Il avait parlé bas. Sa voix était si étrangement changée que Dona Cruz s'écarta comme malgré elle et ouvrit de grands yeux. Au lieu des accents stridents et discords qu'on était accoutumé à entendre sortir de cette bouche, c'était une voix mâle et douce, harmonieuse et profonde. Cette voix prononça le nom d'Aurore. Dona Cruz sentit sa jeune compagne tressaillir faiblement entre ses bras. Puis elle l'entendit murmurer « Je rêve !»«
Aurore !»
répéta le bossu toujours à genoux. La jeune fille se couvrit la tête de ses mains. De grosses larmes coulèrent entre ses doigts qui tremblaient. Ceux qui regardaient Dona Cruz par la porte entr'ouverte croyaient assister à une sorte de fascination. Dona Cruz était debout, la tête rejetée en arrière, la bouche béante, les yeux fixes.
« Par le ciel !» s'écria Navaille. « Voilà qui tient du miracle !»«
Chut, regardez !» L'autre semble attiré comme par un irrésistible effort. Le bossu a un talisman, un charme. Nivelle seul donnait un nom au charme et au talisman. Cette jolie fille, immuable en ses opinions, croyait au surnaturel pouvoir des actions bleues. C'était vrai ce que l'on disait derrière la porte. Aurore se penchait comme malgré elle vers la voix qui l'appelait. « je rêve !» balbutiait-elle parmi ses sanglots. « C'est affreux, je sais qu'il n'est plus. » « Aurore !» répéta le bossu pour la troisième fois. Et comme Dona Cruz allait ouvrir la bouche, il lui imposa silence d'un geste impérieux. « Ne tournez pas la tête, » reprit-il doucement en s'adressant à Mademoiselle de Nevers. « Nous sommes ici au bord même de l'abîme. Un mouvement, un geste, tout est perdu. » Dona Cruz fut obligée de s'asseoir auprès d'Aurore. Ses jambes chancelaient. « Je donnerais 20 louis pour savoir ce qu'il leur dit, » s'écria Navaille.
Pas le sang bleu, fit Auriol. Je commence à croire. Et cependant, il ne lui a rien donné à boire.
100 pistoles pour le bossu au père, proposa Nocé. Le bossu poursuivait. Vous ne rêvez point, Aurore. Votre cœur ne vous a point trompé, c'est moi.
Vous, murmura la jeune fille, je n'ose ouvrir les yeux. Flore, ma sœur, regarde.
Dona Cruz la baisa au front pour lui dire plus bas et de plus près. C'est lui. Aurore entr'ouvrit ses doigts placés au devant de ses yeux et glissa un regard. Son cœur sauta dans sa poitrine, mais elle parvint à étouffer son premier cri. Elle demeura immobile. « Ces hommes qui ne croient pas au ciel, dit le bossu après avoir lancé un coup d'œil rapide vers la porte, croient à l'enfer. Ils sont faciles à tromper, pourvu qu'on feigne le mal. Obéissez, non pas à votre cœur, Aurore, ma bien-aimée, mais à je ne sais quelle bizarre attraction qui est, suivant eux, l'œuvre du démon. Soyez comme fascinés par cette main qui vous conjure. » Il fit quelques passes au-dessus du front d'Aurore, laquelle se pencha vers lui, obéissante.
« Elle y vient !» s'écria Navaille stupéfait.
« Elle y vient !» répétèrent tous les convives. Et le gros Auriol, s'élançant tout essoufflé vers la balustrade.
« Vous perdez le plus beau, monseigneur » s'écria-t-il. « Du diable si cela ne vaut pas la peine d'être vu !»
Gonzague se laissa entraîner vers la porte.
« Chut, chut ! Ne les troublons pas »
disait-on au moment où le prince arrivait. On lui fit place. Il demeura muet d'étonnement. Le bossu continuait ses passes. Aurore, entraînée et charmée, s'inclinait de plus en plus vers lui. Le bossu avait eu raison. Ces hommes qui ne croyaient point en Dieu
avait grande foi en ces billevesées qui venaient d'Italie, les philtres, les charmes, les pouvoirs occultes, la magie. Gonzague murmura, Gonzague l'esprit fort. Cet homme possède un maléfice. Passepoil, qui était auprès de lui, se signa ostensiblement. Et Coquardas junior grommela. Le couquin de la graisse de pendu, à spa pur, cela se voit.
Ta main, disait tout bas le bossu à Aurore. Lentement, bien lentement. Comme si une invincible puissance te forçait à me la donner malgré toi.
La main d'Aurore se détacha de son visage et descendit par un mouvement automatique. Si les gens de la galerie avaient pu voir son adorable sourire. Ce qu'ils voyaient, c'était son sein agité, sa jolie tête renversée dans les masses de ses cheveux. Ils regardaient maintenant le bossu avec une sorte d'épouvante.
« Cap et débiou !» fit Coquardas. « Elle donne sa main, la pécaire !»
Et tous répétèrent, avec un ébahissement profond,
« Il fait d'elle tout ce qu'il veut. Quel démon !»«
As pas pur !» ajouta Coquardas en adressant un coup d'œil à Passepoil. « Ces choses-là, il faut les voir pour y croire. »«
Quand je les vois, moi, » dit Monsieur de Pérolles derrière Gonzague, « je n'y crois point. »«
Eh, pardieu » protesta-t-on de toutes parts. « On ne peut nier l'évidence, pourtant. »
Pérolles secoua la tête d'un air chagrin.
« Ne négligeons rien, » continua le bossu, qui avait ses raisons sans doute pour compter sur la complicité de Dona Cruz.
« Gonzague et son âme damnée sont là, maintenant. Il s'agit de les tromper aussi. Quand ta main va toucher la mienne, Aurore, il faut tressaillir et jeter autour de toi un regard stupéfait.
Bien.
J'ai joué cela dans La Belle et la Bête, à l'opéra, dit Nivelle, qui haussa les épaules. J'étais plus étonnée que cette petite, n'est-ce pas, Auriol ?
Vous étiez charmante, comme toujours, répondit le gros petit financier. Mais quel choc cette pauvre enfant a éprouvé de quand leurs mains se sont rencontrées.
Preuve qu'il y a antipathie et domination diabolique, prononça gravement Tarane.
Le baron de Batz, qui n'était pas un ignorant, dit
« Ya, indibadi, ya, ya, domination diabolique, sacrament !»
Maintenant, reprenait le bossu, tourne-toi vers moi, tout d'une pièce, lentement, lentement. Il se leva et la domina du regard.
Lève-toi, poursuivit-il, comme un automate.
Bien, regarde-moi, fais un pas et laisse-toi tomber dans mes bras. Aurore obéit encore. Dona Cruz restait immobile comme une statue. Il y eut derrière la porte qui s'ouvrit toute grande un tonnerre d'applaudissements. La charmante tête d'Aurore s'appuyait contre la poitrine d'Ésope II, dit Jonas.
« Juste 5 minutes !» s'écria Navaille. « Montre à la main !»«
Est-ce qu'il a changé la jolie Senorita en statue de sel ?» demanda Nocé. Le flot des spectateurs envahissait le salon en tumulte. On entendit le petit rire sec du bossu, qui dit en s'adressant à Gonzague.
« Monseigneur, ce n'est pas plus difficile que cela !»«
Monseigneur !» disait de son côté Pérolles. Il y a ici quelque chose d'incompréhensible. Ce drôle doit être un adroit jongleur.
As-tu peur qu'il ne t'escamote ta tête ? Demanda Gonzague.
Puis se tournant vers Ésope II, dit Jonas, il ajouta.
Bravo, l'ami. Nous donneras-tu ta recette ?
Elle est à vendre, monseigneur, répliqua le bossu.
Et cela tiendra-t-il jusqu'au mariage ?
Jusqu'au mariage, oui, mais pas au-delà.
« Combien le vends-tu, ton talisman, bossu ?» s'écria Auriol.
« Presque rien, mais il faut pour s'en servir une denrée qui coûte cher. »«
Quelle denrée ?» demanda encore le gros petit financier.
« De l'esprit, » répondit Ésope II. « Allez donc au marché, mon gentilhomme. »
Auriol fit le plongeon dans la foule. On battit des mains. Choisy, Nocé, Navaille entouraient Dona Cruz et l'interrogeaient avidement.
« Qu'a-t-il dit ?» Parlait-il latin ? Avait-il à la main quelques fioles ?
Il parlait hébreu, répondit la gitanita qui se remettait par degrés.
Et cette jolie fille le comprenait ?
Couramment. Il a fourré sa main gauche dans sa poche et en a tiré quelque chose qui ressemblait, comment dirais-je ?
À une corne de bouc ? À un miroir magique ? À un grimoire ?
À une liasse d'action, plutôt, amanda Nivelle. Cela ressemblait à un mouchoir de poche, repartit la gitanita qui tourna le dos.
Pardieu, tu fais un homme précieux, l'ami, dit Gonzague, qui lui mit la main sur l'épaule. Je t'admire.
Pour un débutant, n'est-ce pas, monseigneur ? Fit Ésope II avec un sourire modeste.
Mais, s'interrompit-il, priez ces messieurs de se reculer un peu.
À distance, qu'on n'aille pas me les faroucher. J'ai eu assez de peine. Où est le notaire ?
Qu'on fasse venir le notaire royal, ordonna monsieur de Gonzague.